Bonjour et bienvenue sur Radio Rôliste, le premier podcast entièrement consacré au jeu de rôle. Ceci est le premier numéro et nous sommes en janvier 2011. Bonjour à tous. Comme il s'agit du premier numéro de ce podcast, je vais vous en donner donc un petit peu la note d'intention. Nous allons passer en revue des jeux de rôle d'hier et d'aujourd'hui, à la fois des jeux qui traînent dans nos étagères depuis des éons et que nous adorons, et également nos coups de cœur dans les dernières sorties. Nous allons également passer en revue quelques news chopées ici ou là sur le net. Et pour faire tout cela, je ne serai pas seul puisque je suis avec Cyril.
Bonjour Cobal. Alors, dis-nous, de quoi on va parler aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, le programme est très chargé, figure-toi, car nous aurons tout d'abord une présentation du jeu de rôle Sorcerer, le fameux jeu de Ron Edwards, puis tu vas nous présenter Rogue Trader, puis ce sera un petit portrait de famille de la gamme Yggdrasil, et enfin les news en vrac. Alors, tout d'abord, Sorcerer.
Alors, Sorcerer, c'est quoi?
C'est un jeu formidable, dont le pitch est le suivant. On incarne un être humain, tout ce qu'il y a de plus standard dans notre monde contemporain, qui sait pas faire grand-chose de particulier, si ce n'est une chose. Il sait pratiquer la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, tu vas me demander? Eh bien, c'est très simple, ça consiste à invoquer des démons et à les lier afin de leur faire effectuer toutes les tâches que tu souhaites. Donc, en utilisant leur pouvoir démoniaque à loisir, si ce n'est que tu es lié à eux par un contrat et que de plus, ces démons ont à la fois. Pour donner une comparaison, c'est un petit peu comme ce qu'il y avait dans la première édition de Bloodlust, c'est les envies des épées dieux. Donc ce jeu a été créé par Ron Edwards, qui est un fameux créateur de jeux de rôle américain.
C'était son premier jeu ou il en avait déjà fait?
Sorcerer, ouais, je crois que c'est le premier, ouais, je crois que c'est ce qu'il a lancé un peu. Donc c'est un créateur indépendant, donc avec des idées bien arrêtées sur la création de jeu, et donc il a essayé de faire quelque chose d'un petit peu original au niveau système. Pour tous les actes de la vie courante,
D'accord.
en tout cas que tu souhaites lui faire accomplir, il n'a que trois caractéristiques.
Comme dans Simulacre.
Comment ça dans Simulacre? Non, dans Simulacre, il y avait des icônes à mélanger, si je me souviens bien.
Oui, mais il y avait des caractéristiques. Il y avait corps, esprit et
Ah oui, mais qui
âme.
était représenté
Oui,
par la
c'est
suite
possible.
par des petits dessins.
C'est d'origine.
Donc là, dans ce cas précis, on a l'endurance, donc pour tous les aspects physiques du personnage. Il y a la sorcellerie, donc elle-même, l'art. Et il y a l'humanité qui va mesurer, on va dire plus ou moins la moralité, ou en tout cas la sanité du personnage, sa santé mentale un peu.
Est-ce que c'est comme dans Cthulhu où finalement il y a une opposition entre la santé mentale et les compétences occultes?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, dès qu'on va lier de nouveaux démons, dès qu'on va commettre des actes qui sont contre la morale. Par exemple, si on dit à un démon de ravager toute une école maternelle, il y a peu de chances que l'humanité s'en tire sans dommage.
D'accord, mais ce n'est pas une position complètement... on peut à la fois avoir une bonne humanité, peut-être en étant un gentil sorcier, tout en ayant de...
Oui.
Capacité.
Oui et non. Bah, en fait, il y a l'acte de sorcellerie lui-même va enlever de l'humanité. Mais après, il y a tous les actes secondaires qui viennent se greffer là-dessus.
Ok, et donc c'est l'interaction de ces trois caractéristiques qui permet de jouer absolument...
Oui, qui permet de faire à peu près tout, en sachant que les personnages n'ont pas vraiment de compétences. Il y a un truc que je trouve assez bien fait, c'est que pour toutes les circonstances de la vie courante, ils ont une couverture. Et en fait, c'est juste un carré sur la feuille de perso sur lequel on va noter... toutes les idées en rapport, on va dire, avec le métier du personnage, son quotidien, etc. Par exemple, s'il est plombier, on pourra noter plomberie, connaissance de toutes les vieilles dames du 18e arrondissement, parce que on peut construire dans le personnage le fait que il est beaucoup dans ce quartier, voilà, donc c'est un truc qui fait pas mal appel à l'imagination, et on va noter comme ça tous les éléments qui se rapportent à lui, et par la suite se servir de ces éléments de couverture pour dire ah ça je sais faire parce que.
D'accord.
Et par conséquent, améliorer.
En profiter pour améliorer le background. Ça me rappelle un petit peu le système de règles de Hero Wars par Robin Dillows, où finalement on crée en quelques lignes le background, l'historique d'un personnage, et alors, les mots clés deviennent des compétences finalement.
Oui, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Sauf que c'est moins formaté, si tu veux, parce que dans Hero Wars, tu soulignes un certain nombre de mots, alors que dans le cas de Sorcerer, c'est quelque chose de beaucoup plus lâche, si tu veux, comme système. C'est on fout tout ça en paquet dans la zone réservée, et après on vient y piocher de temps en temps pour les actes du personnage. Donc qu'est-ce que ça permet de faire l'invocation d'un démon?
Et donc, c'est l'intérêt principal du jeu, de toute façon. Invoquer les démons, c'est ce qui...
Ah oui, c'est le...
À la fois ludiquement, dans la façon dont ça se passe dans les règles, et aussi dans le cours du jeu, c'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu, c'est-à-dire c'est le point fort qui va nous inciter à jouer au jeu, c'est ça? Invoquer un démon et réussir à le...
Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui compte pour les personnages, c'est de pouvoir invoquer, contrôler, et plus tout ce qui est pour toutes les intrigues, tout le reste, ça va se concentrer plutôt sur le monde des sorciers eux-mêmes.
Ah, parce qu'il y a aussi tout un background, peut-être avec des factions, des trucs comme ça, ou...
Alors, pas vraiment. En fait, Sorcerer est un jeu, il est intéressant aussi à ce niveau-là, c'est que c'est un peu une boîte à outils qui permet de construire l'univers qui va aller avec, si tu veux. En sachant que ce sera du fantastique,
D'accord, mais c'est donc
c'est du fantastique. C'est du fantastique,
mais du fantastique léger, enfin pas trop formaté en tout cas au niveau du background.
Oui.
Finalement, ça fait penser à ça pourrait très bien être une série télé américaine quelque part avec des un principe scénaristique vraiment très fort.
Oui.
Là, c'est pas la mission, c'est le démon, essayer de le comprendre, sa psychologie et comment le maîtriser finalement.
En faisant quelques modifications de scénario, par exemple, la mini-série Misfits pourrait coller un petit peu avec ça.
Effectivement. Donc série. Alors, juste pour ceux qui connaissent pas cette série.
Alors, dans cette série, ce sont des Anglais, je crois.
Ouais,
de jeunes Anglais qui font des travaux d'intérêt généraux. Et il y a une espèce de météorite ou on ne sait pas quoi qui tombe sur la ville et qui leur donne des pouvoirs spéciaux qu'ils maîtrisent pas vraiment. Bon, la série est très sympa. C'est un peu éloigné de Sorcerer malgré tout, mais voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnages qui physiquement ou intellectuellement sont pas supérieurs aux autres, mais ils ont ce petit truc qui
Et surtout c'est des personnages qui n'ont pas de rapport avec le culte ni avec le monde des super-héros, ce ne sont pas des personnages à la Lovecraft, il y a pas une notion de magie, ce sont des petits voyous. Donc le contraste entre ces capacités occultes et la nature très matérialiste ou très banal des personnages rend intéressant de la série. C'est peut-être quelque chose qu'on retrouve aussi dans Sorcerer, dans le sens où ça peut être monsieur, madame, tout le monde finalement, sorcier. Comment ça se... Tu parlais de compétences de plombier, enfin ça peut vraiment être
C'est de ce point de vue là c'est absolument pas limité. On peut être tout et n'importe quoi du moment qu'on lance des sorts, mais qu'on dit aux démons de lancer des sorts.
Et comment on apprend à devenir sorcier ?
Alors, ce n'est absolument pas dit non plus, comment on apprend. En fait, avec ce jeu, on pourrait très bien en faire une version Dark Ages et avoir des sorciers du Moyen-Âge, ça pourrait coller tout à fait.
Alors, toi, est-ce que tu as entendu parler de... Bon, déjà, est-ce que tu y as joué ? Ou sinon, est-ce que tu as entendu parler de campagne de Sorcerer et de la façon dont ça a pu tourner?
Alors moi j'y joue, mais j'y joue de manière un peu spéciale étant donné que je joue à ça par correspondance, par forum interposé en fait, et ça tourne plutôt pas mal. J'ai rien dit à propos du système, je crois.
Si on sait qu'il y a trois caractéristiques qui permettent de...
On lance un certain nombre de dés correspondant au total qu'on obtient en cumulant divers trucs, dont la couverture et tout ça. Bref. Je crois que c'est des 10. On lance un nombre de dés 10 correspondant au score qu'on a. Et c'est des jets en opposition. Donc, en face, il y a aussi des lancers de dés. Et en fait, on compare parmi les dés qui ont été jetés, on compare ceux dont le chiffre est le plus haut et qui forment la plus longue série. C'est un truc un peu bizarre. Ça donne une échelle d'échec ou de réussite l'un par rapport à l'autre. Un truc qui est intéressant, c'est qu'on peut changer le dé qui est utilisé parce que ainsi ça change l'ampleur de la réussite ou de l'échec. Je t'explique. Par exemple, si on n'utilise que des dés 10, on aura des résultats compris entre 1 et 10. Ok. Donc l'ampleur maximum sera de 9. C'est-à-dire il y en a un qui a... D'accord. 1 et l'autre qui a 9. Et l'autre qui a 10, pardon. Et on peut très bien faire ça avec des D6.
D'accord.
Donc ça réduit la différence entre les personnages. Et en même temps, ça fait des combats plus équilibrés. Donc on peut changer comme ça.
Le système est très adaptable.
Voilà. On peut changer comme ça à la volée le contenu, enfin la puissance des personnages. Sinon, nos démons, à quoi ça ressemble ? Alors en fait, il y a plusieurs types de démons. On peut avoir des démons incarnés dans des objets, des démons dits discrets, c'est-à-dire soit ceux qui sont invisibles, ou alors qui sont microscopiques, ou qui sont sous forme de vapeur ou d'ombre, ou voilà, ce genre de choses. Il y a les démons parasites, façon alien, c'est-à-dire ils sont à l'intérieur du corps d'un hôte.
Est-ce que chaque démon a un pouvoir différent et unique, ou alors est-ce qu'il y a des classes de démons, des races ?
En fait, il y a des classes de pouvoir qui peuvent être pris par n'importe quel démon a priori. Si ce n'est, évidemment, si t'as un démon invisible, il aura forcément la capacité être discret ou quelque chose comme ça. Enfin, ce qui découle de leur aspect physique. Donc dans les pouvoirs, par exemple, le démon peut grossir, et par exemple devenir de la taille d'un éléphant, où il peut augmenter une caractéristique du personnage, enfin du magicien quoi, enfin du sorcier. Il peut provoquer la confusion dans les esprits, il peut être rapide, il peut voler, enfin, voilà, il peut faire, il y a tout un tas d'actions, enfin, tout un tas de possibilités comme ça qui peuvent se cumuler. Et voilà. Voyons voir, qu'est-ce que je n'ai pas dit?
Alors déjà, tu peux nous parler de, donc, tu nous as dit que Ron Edwards était devenu fameux avec Sorcerer. Le joueur a reçu une récompense.
C'est celui qui a eu le Diana Jones Award.
Diana Jones Award, qui est une récompense assez prestigieuse, qui est remise, si je me souviens bien, tous les ans à la Gen Con d'Indianapolis. Il n'y a que deux ou trois membres du jury qui sont connus, le reste étant anonyme. En moyenne, une année sur deux, il récompense un jeu qui a innové, même si ça a pu être confidentiel, ou ils ont honoré aussi, par exemple, les efforts caritatifs des associations de jeux de rôle irlandaises. Enfin, ça c'est varié. Et puis sinon, il récompense les jeux qui changent le marché, les Heroclix, compagnie, ce genre de choses, quoi. Et donc, ils ont récompensé une année Sorcerer, à cause, je pense, de la démarche novatrice de Ron Edwards. Et puis, peut-être pas seulement avec Sorcerer, mais aussi avec la communauté qu'il a, enfin, le débat d'idées qu'il a lancé sur les règles, sur le jeu de rôle.
Et sur donc avec la fameuse LNS.
La quoi? qu'est-ce que c'est que cette drogue?
Alors en fait c'est pas vraiment une drogue. Donc là on dit qu'on a fait le tour du jeu pour Sorcerer, c'est bon.
Ok, donc
tu souhaites savoir autre chose?
Non, juste pour conclure sur Sorcerer. Donc toi tu le conseilles déjà?
Ah oui, très vivement. Alors, en sachant que c'est un jeu qu'il faut se procurer par correspondance en version papier depuis les États-Unis, a priori.
D'accord. Est-ce qu'il faut... Tu nous as dit qu'il y avait quand même, au niveau du background et de l'environnement, alors, il y a peut-être beaucoup de travail à faire pour le maître de jeu.
Mais c'est vraiment un jeu à monter soi-même. Justement, mais une chose qui est bien aussi, c'est que ce livre est très riche en proposition de comment monter un univers. Donc il va donner des pistes pour exploiter différents types de démons pour que ça donne différents types de PNJ en leur donnant des motivations, etc. Il glisse quand même quelques indices qui sont vraiment très sympas. Donc en fait on dispose des outils pour créer l'univers de ce jeu.
Mais donc le maître de jeu doit faire un petit effort et avoir une petite idée afin d'utiliser
le livre propose un petit chapitre dans lequel il y a une ébauche de monde, si on veut. Mais pour ma part, je l'ai pas trouvé hyper passionnant, le monde qu'il propose. Mais le bouquin est vraiment super intéressant pour son côté boîte à outils. Donc je pense qu'il faut passer faut vraiment aller au-delà de ça et voir un petit peu comment exploiter les règles qu'on a sous la main pour créer un univers chouette, quoi. Donc bah moi j'ai commencé, par exemple.
D'accord.
Moi j'ai fait un univers.
Tu pourras peut-être nous en parler en détail, hein,
ou, en détail, je pense pas que ce soit super intéressant, mais
en plus c'est un jeu à secret, peut-être. Enfin, combien c'est un univers à secret que tu vas voir distiller.
Je pense que ouais.
À tes joueurs.
Je pense que c'est intéressant de créer des secrets, ce que j'ai commencé de faire. Donc moi, j'ai choisi de le faire en fantastique contemporain, dans Paris, puisque je suis parisien. Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Qui se déroule dans les grandes familles aristocratiques qui se transmettent le secret de la sorcellerie de génération en génération. Donc avec un joli nid de vipère là-dedans, avec des vieilles familles qui se déchirent, avec une éducation très guindée, tout ça, tout ça.
Avec des les personnages se retrouvent dans des rallyes, au bridge.
Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est où les enfants appellent leurs parents père et mère.
Les vouvois.
Oui, les vouvois, tout ça.
Alors, juste avant de passer à la suite sur René Edwards, oui. Je me souviens vaguement d'un jeu de rôle à couverture noire, assez massif, sorti, publié, me semble, par des Anglais, mais sinon c'était peut-être des Américains, qui a jamais dû atteindre les côtes de France. Je me souviens malheureusement plus de son nom. J'essaie de retrouver la trace du jeu en question. Je pense ne plus avoir le jeu, mais je sais qui l'a. C'est l'auteur de Sombre qui l'a récupéré. Donc, je pourrais peut-être lui demander.
Un jeu à couverture noire.
Ouais. Et qui aborde
parle
un peu.
De quoi
qui aborde les mêmes thèmes, c'est-à-dire le démonisme, enfin un monde fantastique contemporain avec de la sorcellerie et. Mais peut-être plus axé sur le côté un peu sombre, horreur. Visiblement, Sorcerer n'est pas un jeu sur l'horreur, mais sur la mécanique qui lie un invocateur, son démon.
Oui, c'est le truc profond du jeu, ce serait jusqu'où serez-vous prêt à mettre en péril votre humanité pour avoir ce que vous souhaitez. Car l'utilisation des démons, finalement, ça permet de faire à peu près tout ce qui est complètement impossible. Donc voilà, ça va être quoi ? Piller des banques, tuer des gens.
Une inspiration possible, peut-être, pour Sorcerer, dis-moi si je me trompe, ça pourrait être la petite série télévisée The Lost Room, tu connais ?
Ah oui, je connais, c'est vrai, c'est super bien cette série. Ouais, la mini-série en 3 épisodes.
Oui, avec la clé qui ouvre toutes les portes.
Oui. Alors, est-ce que ça pourrait être comme ça? Pas vraiment, parce que là, les démons, ils ont quand même une volonté.
Oui. Même si on dit que les objets dans la série ont aussi une certaine volonté.
Après, étant donné qu'il peut y avoir des démons objets, on peut créer, si tu veux, on peut créer The Lost Room avec les fondements de Sorcerer. Mais ça permet d'aller au-delà de ça.
Et donc pour conclure un petit peu sur Sorcerer, donc j'aimerais dire que ça s'adresse plutôt à des gens qui cherchent un système un peu freeform, qui ne soit pas trop rigide et qui permette de jouer du fantastique contemporain. On peut aller voir aussi donc du côté de Neil Gaiman, Neverwhere, ce genre de choses. Et puis il y a toutes les personnes qui seront intéressées, je pense, par le challenge de jouer un personnage qui est tiraillé entre un pouvoir sans limite et la sauvegarde de son humanité, de sa morale et de sa santé mentale.
Donc, maintenant, je pense qu'il est temps que tu nous parles de Rogue Trader.
Oui, alors je voudrais vous parler de Rogue Trader, qui est une de mes dernières acquisitions en matière de jeux de rôle, sachant que de nos jours, je n'achète plus beaucoup de jeux, malheureusement. Mais avant de parler de Rogue Trader, je voudrais vous parler de son univers. L'univers de Warhammer 40 000 que beaucoup de monde connaît, mais pas forcément tout le monde, et qui me paraît suffisamment intéressant et particulier pour vraiment le présenter. Alors, l'univers de Warhammer 40 000, donc c'est un univers de science-fiction. Je vais vous faire un historique très très bref du futur. Il va y avoir d'abord une période où l'humanité va se répandre dans les étoiles et va créer des merveilles technologiques.
Et c'est prévu dans longtemps, ça?
C'est prévu, oui, dans un certain temps, quand même. L'humanité va... Mais en fait, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a toute une période qu'on appelle le Moyen-Âge technologique. Pourquoi on appelle ça le Moyen-Âge technologique, ou les agents technologiques? C'est parce que on n'en sait pas beaucoup sur cette période. Nous qui nous trouvons en l'an 40 000, bien après cette période, 10 000 ans. Et depuis 10 000 ans, c'est la guerre. Et en fait,
toute la technologie a été perdue ou difficilement préservée et nous n'avons plus que des bribes du savoir antique. L'humanité s'était répandue dans la galaxie, elle est toujours dans un million de mondes, donc c'est vraiment une somme de mondes et de personnes, d'habitants, d'humains absolument gigantesque. On parle de peut-être de milliers, de milliards, de millions de milliards, je ne sais pas, d'humains. Et en fait, cet univers, donc depuis 10 000 ans, s'accroche désespérément à ses possessions, essaye de retrouver des savoirs perdus, ou en tout cas essaye de préserver en les enrobant dans un rituel religieux les connaissances technologiques qui subsistent.
Un univers plutôt sombre, a priori.
Alors, c'est un univers extrêmement sombre, parce que l'humanité, là je vais faire un petit parallèle avec la Première Guerre mondiale. L'humanité a appris qu'elle était mortelle. C'était Paul Valéry qui, à l'issue de la très grande guerre, avait déclaré que maintenant les civilisations savaient qu'elles étaient mortelles. Bah, dans Warhammer 40 000, l'humanité sait qu'elle est mortelle, et c'est comme si elle avait vécu 10 000 ans de Première Guerre mondiale. Alors on peut faire un parallèle avec la Première Guerre mondiale et avec le Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que dans un univers de science-fiction, en théorie, on se trouve dans un contexte technologique avancé qui permet, par l'application des mêmes procédés techniques, de recréer à volonté, en fonction bien sûr des matières premières disponibles, tous les appareils technologiques de la civilisation. Ce n'est pas le cas ici. Ici, il y a des armures énergétiques qui font penser à des chevaliers médiévaux, et des armures énergétiques qui ne sont plus produites dans des usines, qui ne sont plus créées. Le savoir pour les créer a été perdu, et ça fait donc un univers de science-fiction qui a un mélange d'univers médiéval avec ses armures, ses épées et ses codes d'héraldique et de chevalerie, et un univers de science-fiction avec ses armes atomiques, etc.
Et en même temps, au niveau politique, c'est un peu le Moyen-Âge aussi, semble-t-il.
Alors, au niveau politique, c'est très simple. L'humanité est en guerre autour de son empereur, qui est un cadavre en fait, alimenté, qui survit vaguement grâce à des appareillages technologiques soigneusement entretenus, et au sacrifice quotidien d'innombrables âmes. C'est une espèce de vampire psychique qui sert de phare pour l'humanité, et de phare littéralement dans le sens où son âme éclaire le warp, qui est cette dimension par-delà la réalité et qui est utilisée pour le voyage entre les étoiles.
D'accord, c'est la même chose que l'épice à Dune ou quelque chose comme ça.
Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, surtout dans la mesure où, comme dans Dune, il va y avoir des sortes de guildes de mutants qui vont avoir le monopole sur le voyage spatial. Mais contrairement à Dune, où ces navigateurs sont vraiment indépendants, dans Warhammer 40 000, il y a vraiment une espèce d'impératif religieux, une préséance de l'empereur dans toutes les pensées, tous les citoyens prient quotidiennement l'empereur. On n'est pas vraiment indépendant du reste d'un empire qui peut vous écraser comme une mouche à n'importe quel moment si vous vous rebellez. Nulle personne n'est irremplaçable dans Warhammer 40 000. La vie humaine n'a vraiment que peu de valeur, surtout en comparaison des matériels hérités du passé. Ce qui rend le contexte vraiment très sombre.
D'accord.
Comme dans la Première Guerre mondiale, on ne va pas hésiter à sacrifier des milliers, des millions ou des milliards de personnes.
Pour prendre une colline.
Pour prendre une colline. ou pour sauvegarder un monde qui a de la valeur. Les combats spatiaux vont se dérouler, enfin les combats les plus, les vrais combats vont se dérouler autour de d'enjeux stratégiques, des mondes qui ont de la valeur ou des endroits qui ont une importance symbolique ou logistique, puisque c'est comme pour la Première Guerre mondiale surtout une affaire de logistique. On va envoyer des milliers et des milliers et des milliers de vaisseaux,
oui, que ce soit un nœud un nœud dans l'espace qui soit beaucoup utilisé,
Oui tout à fait, parce que sinon l'Imperium, donc cette organisation qui rassemble 1 million de mondes, ne va pas hésiter à détruire complètement une planète irrécupérable et qui a peu de valeur stratégique. Donc voilà, il va y avoir une guerre permanente. Toute l'humanité est mobilisée, il n'y a pas d'état de paix, il y a juste comme dans la Première Guerre mondiale, il y a effectivement des gens à Paris qui continuent d'aller au bal, sauf que c'est une extrême minorité et que qu'ils n'échapperont pas au massacre, au carnage, si jamais les ennemis de l'humanité triomphent, comme ils ont bien l'air d'être partis pour.
D'accord, d'accord. Alors justement, c'est qui sont un peu les ennemis de l'humanité
Alors les ennemis de l'humanité, ce sont des monstres appelés les Xénos et d'autres entités qui relèvent de la magie quelque part. Je t'ai déjà parlé du warp, cette dimension en dehors de la réalité. C'est une dimension psychique, c'est-à-dire liée à la psyché des créatures du monde réel.
D'accord.
Et dans le futur de Warhammer 40 000, l'humanité développe des capacités psychiques. Le plus puissant psycheur, le plus puissant utilisateur de cette énergie, c'est l'empereur lui-même. Mais cette énergie est à double tranchant, car les cauchemars de l'humanité prennent forme quelque part. C'est l'avenir que nous décrit Warhammer 40 000. Le warp devient le lieu de naissance d'entités terrifiantes, créées soit par l'humanité, telles que les Marines du Chaos qui ont été convertis par le Chaos, donc qui est cette incarnation du Warp, soit par d'autres entités. La race extraterrestre des Eldar, par exemple, a créé un dieu du Chaos qui s'appelle Slaanesh. Voilà. Donc les dieux du Chaos sont des entités qui ont une puissance absolument phénoménale.
Ils sont un peu l'incarnation de ce qu'il y a derrière au niveau psychologique, enfin pas psychologique, mais psychique de tous les peuples.
Oui,
c'est une manifestation de l'inconscient collectif.
Quelque part, il y a de ça. C'est un petit peu l'inconscient collectif de l'humanité. C'est aussi le résultat de millénaires d'évolution. Hein. Ça peut être lié à des incidents historiques bien précis, comme ça a été le cas pour Slaanesh. Ensuite, je suis pas un spécialiste des dieux du chaos, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'humanité qui a créé son pire ennemi, et que, en conséquence, pour prévaloir contre le chaos, l'humanité n'a d'autre choix que de devenir d'une pureté irréprochable, et donc l'humanité est complètement fanatisée. C'est un tas de fanatiques absolument indécrottables. Qui se battent avec une ferveur religieuse contre le chaos. Donc ça, c'est le grand ennemi. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi redoutables. On les regroupe sous le vocable de Xénos, pour extraterrestre. Et la politique de l'Imperium vis-à-vis des races extraterrestres, des non-humains, est très très simple. C'est l'extermination. Il n'y a pas d'alliés extraterrestres.
Ah d'accord. Et donc si Haïti avec son petit vélo qui passe devant ton vaisseau spatial, tu le dégommes quoi.
Ah oui, désolé. Alors il y aura peut-être des exceptions, on pourra en parler, mais la règle c'est que les orques, ces créatures fongoïdes.
Fongoïdes.
Oui, les orques, c'est des champignons animaux.
Ah d'accord. Ah tiens, c'est un élément que je.
Oui, ils sont créés à partir de spores. Enfin, ils sont.
Ah d'accord.
les orques n'ont pas un papa et une maman dans Warhammer.
Ils ont un champignon.
Voilà. Donc les orques qui se reproduisent en fait comme des lapins et qui
par parthénogenèse
possible, mais il y a pas d'orques femelles hein, donc c'est fort possible en fait.
Ah, c'est pour ça qu'ils sont aussi énervés en fait.
Et les orques, ils incarnent un côté un petit peu humoristique dans l'univers de Warhammer 40 000. Ils sont complètement quelque part irréalistes, et c'est le quelque part ils représentent la bonne humeur dans l'univers de Warhammer 40 000. Ils ont juste envie de se battre, de chanter très fort, et ils aiment bien aller très vite en peignant leur véhicule en rouge, parce que le rouge ça fait aller plus vite.
Ah oui, si je me souviens bien, j'ai fait une partie de Warhammer 40 000, le jeu de figurines, et les véhicules peints en rouge vont plus vite, effectivement.
Voilà. Donc il y a les orques, il y a les tyrannides. Les tyrannides, ce sont à la base, ce sont des aliens, hein, comme dans la trilogie quadrilogie alien, hein, tétralogie alien.
La licence alien.
Les licences alien. Avec toute une variété de créatures plus horribles les unes que les autres. Et eux, leur truc, c'est de dévorer les mondes. C'est-à-dire, ils arrivent sur un monde et ils consument toute la matière organique. Et quand ils repartent vers un autre monde, la planète n'est plus qu'un amas de roches sans atmosphère. Voilà, donc c'est leur truc. Bon, il y a d'autres ennemis, on va pas faire la liste. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Imperium, cette structure politique qui régit l'humanité depuis 10 000 ans, est en grave danger, et que c'est la guerre, et que une vie humaine n'a aucun poids, et chaque jour des mondes tombent, la situation est désespérée. Et seul l'obstination et le fanatisme aveugle de l'humanité lui permet pour le moment de retarder l'inéluctable.
D'accord.
Donc voilà, ça c'est l'univers de Warhammer 40 000, qui est avec une où la guerre prend à la fois l'apparence de combat de chevalier, avec des unités d'élite qui ont accès aux armes qu'on ne fabrique plus. Prend l'aspect aussi de la guerre de tranchées de 1914-1918, avec des humains sacrifiés à l'appel face à des ordres innombrables d'extraterrestres. Voilà, donc ça c'est le contexte général. Ensuite, dans cet univers, tout d'abord il y a eu bien sûr les jeux de figurines, Warhammer 40 000. Et puis, il y a quelques années, la bonne nouvelle est tombée. Un jeu de rôle pour Warhammer 40 000 allait bientôt voir le jour. Et en fait, c'est plus qu'un jeu de rôle, c'est trois jeux de rôle. Le premier, qui s'appelle Dark Heresy, traite de l'Inquisition impériale. L'Inquisition, faut penser vraiment Torquemada, torture, les pleins pouvoirs et voilà, face à des sectes de conspirateurs mutants infiltrés dans la noblesse, etc.
Alors, pour l'avoir un peu pratiqué, c'est un poil plus ambigu que ça, mais grosso modo, c'est l'idée, effectivement.
Le deuxième jeu, c'est Rogue Trader, donc je vais vous parler plus en détail tout après. Et le dernier jeu, le nom m'échappe, mais
qui parle de quoi ?
C'est celui où on peut incarner un Space Marine.
Ah bah c'est pas Space Marine ce jeu ?
Non, je crois que ça porte un autre nom. C'est un jeu donc
ou Ultramarine peut-être ?
Non, non plus. Les Ultramarines, c'est un
chapitre ou un truc.
Des chapitres des Space Marines, fondé par Robot Gulliman, le grand pote de l'empereur. Bref. Non, le dernier jeu de rôle permet d'incarner un Space Marine qui est le guerrier ultime en fait, le défenseur le dernier rempart de l'humanité, qui porte une armure énergétique qui a 10 millénaires d'âge qui se bat avec une épée énergétique ou une hache tronçonneuse ou ce genre de choses.
Sympa.
Voilà. Il y a une espèce de montée en pouvoir entre ces trois jeux. Dans Dark Heresy, on va jouer le sbire, l'agent d'un inquisiteur. Donc un inquisiteur, c'est quelqu'un qui a vraiment les tout pouvoirs. Quand il se décide à en faire usage, il doit bien sûr aussi composer avec la réalité qui est qu'il est, il a une petite équipe et il est souvent en territoire hostile. Mais voilà, dans Dark Heresy, on va jouer un homme qui est juste un petit peu au-dessus de la moyenne des gens, qui est quand même un agent d'élite, mais qui n'a pas en soi de pouvoir extraordinaire. Dans Rogue Trader, on joue en fait l'équipage, et quand dans l'équipage, je pense aux officiers ou aux membres clés, l'équipage d'un vaisseau spatial, du vaisseau d'un libre marchand, un rogue trader. Un libre marchand, c'est quelqu'un qui a eu une autorisation spéciale pour, qui n'est plus forcé d'obéir aux règles auxquelles sont astreints la plupart des citoyens.
D'accord.
Il peut aller en dehors de l'impérium, par exemple.
Mm-hmm.
Il peut, pourquoi pas, dialoguer avec des xénos à titre exceptionnel.
D'accord.
Tout ça, dans l'intérêt stratégique, bien sûr, de l'Empire. Le but n'est pas, ce n'est pas, on va dire.
C'est pas de faire copain-copain avec voilà, les aliens.
C'est pas la frange social-démocrate de l'Impérium. Il n'y en a pas. C'est juste que l'Impérium est un système extrêmement rigide, extrêmement cadré, mais parfois il y a besoin de.
D'éléments un peu hors du
voilà d'éléments
du carcan,
un peu hors du carcan pour aller en dehors des sentiers battus et ramener des solutions là où il n'y en avait pas. Pourquoi pas aller récupérer des technologies perdues là où les forces de l'Imperium ne vont plus, etc. Et tout simplement faire du commerce dans un univers absolument gigantesque qui s'y prête bien. Voilà, donc ça, Rogue Trader, l'équipage dispose d'un vaisseau qui est en soi extrêmement puissant. Et dans Space Marine, donc jeu que je n'ai pas lu, on peut supposer que le niveau de puissance sera beaucoup plus grand, puisque individuellement, un Space Marine, en gros, c'est un tank. Donc c'est comme si on jouait un tank. Par rapport à un Rogue Trader, le gars, il va avoir une belle épée, mais ça va pas être le même niveau de puissance. Dans Deathwing, on peut... pardon, dans le prochain jeu... Alors, je me demande si c'était pas Deathwing, le titre, mais je me trompe
peut-être.
Ah oui,
peut-être. Ou alors c'est l'extension du jeu de plateau Special que Deathwing, plutôt.
Ah oui, possible. Ou alors parce qu'il y a la Deathwatch, mais ça, Deathwatch, c'est un des...
C'est un chapitre aussi.
Ouais, c'est le chapitre qui est lié... enfin, c'est pas vraiment un chapitre, c'est une... C'est
c'est un paragraphe.
Non, Deathwatch, c'est les Space Marines qui obéissent à l'Ordo Xenos, aux inquisiteurs en fait chargés d'exterminer les Xenos, et notamment les Tyrannides. C'est pour ça que qu'on les retrouvait, je pense, dans Space Hulk.
D'accord.
C'est contre les Tyrannides, Space Hulk. Ok, donc voilà, juste. Brièvement, c'est ça. Hein, un Space Marine, c'est la plupart des citoyens impériaux considèrent ces soldats comme des légendes, n'ont jamais vu, n'en verront jamais de leur vie et mourront sans avoir pu confirmer ça. De temps en temps, ces guerriers des étoiles descendent du ciel pour des batailles critiques dans des endroits stratégiques. Donc ça, c'est vraiment jouer un héros dans un contexte extraordinaire.
D'accord.
Rogue Trader. Alors, et Dark Heresy, donc les agents obéissent à un inquisiteur. Ils ont quand même une mission assez assez claire, qui est de combattre le chaos, défendre l'Impérium dans un cadre bien précis. Rogue Trader, au contraire, c'est beaucoup plus libre.
Oui, alors que finalement Dark Heresy, c'est plutôt un jeu à mission.
Voilà.
Comme on peut en faire, je sais pas, dans COPS ou dans INS, où il y a un supérieur et où on est bien cadré. Ouais. Et on a...
Alors, dans Rogue Trader aussi, il y a un supérieur, c'est le Rogue Trader. C'est le libre marchand. C'est lui qui détient la lettre de marque qui lui permet, en gros, de faire ce qu'il veut. Bon,
d'accord.
En très gros.
Hein.
Sachant qu'il est possible, hein, il est même prévu qu'un des personnages joue le libre marchand.
D'accord.
Voilà, donc, okay. Joue en théorie le chef. Bon, dans la pratique, il faut faire attention, bien sûr, quand on fait un groupe de joueurs, c'est pas évident de décider que l'un est le chef et tout. Donc, il faut un peu de bon sens de la part de tout le monde, sinon ça finit mal. Mais, voilà. Donc, en gros.
C'est une histoire de contrat social.
Voilà. Ah, tu nous en parleras peut-être un peu plus tard. Les joueurs jouent les maîtres d'un vaisseau spatial gigantesque.
Ah, c'est quelle échelle à peu près je veux dire, il y a combien de navigants?
Bah, c'est pas vraiment le Faucon Millenium, hein. C'est d'accord. Pas vraiment Firefly. Hein.
Voilà, moi je pensais que c'était plutôt quelque chose comme ça initialement.
Non, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que le monde Warhammer 40 000 est atteint d'un sérieux cas de gigantisme, c'est-à-dire que tout est gigantesque. Déjà rien que la taille de l'Imperium, hein, qui est pas administrable, c'est pas possible. Donc c'est il n'est seulement administrable que par une hiérarchie absolument impitoyable qui remonte depuis le citoyen de base jusqu'au gouverneur planétaire, jusqu'à le gouverneur de sous-secteur, le gouverneur de secteur, les hauts seigneurs de Terra et l'Empire, enfin oui, l'Empereur.
C'est extrêmement hiérarchisé.
L'Empereur Dieu jusqu'à la fin. Enfin, c'est absolument gigantesque. Et les armées sont gigantesques, les menaces sont gigantesques et les vaisseaux aussi. Alors les vaisseaux
c'est les vaisseaux cathédrales.
Imagine un peu le vaisseau dans Alien. Je sais pas si tu te souviens du premier film. Le vaisseau dans Alien, tu as
le Nostromo.
Voilà, le Nostromo, merci. Le vaisseau dans Alien ou les vaisseaux dans Dune. On est dans cet ordre d'idées, quoi. C'est-à-dire que le moindre petit vaisseau qui soit capable de naviguer dans le warp va généralement comporter plusieurs milliers de membres d'équipage. Je vais te retrouver dans le bouquin un exemple. Alors,
qu'est-ce que tu cherches ?
Eh bien, je vais te trouver par exemple. Allez, un petit vaisseau, hein, pas un grand.
Le petit modèle, s'il vous plaît.
Alors, le petit modèle.
Avec toute option. Avec les dés en mousse sur le pare-brise.
Voilà. Alors, un exemple de vaisseau de libre marchand. Une frégate. Alors, une frégate, hein, dans le langage des navigants, c'est quand même un vaisseau de guerre relativement petit.
Oui.
Hein, frégate, destroyer, tout ça. C'est pas le cuirassé, c'est pas.
Destroyer,
c'est pas le croiseur.
Je crois que destroyer, déjà, c'est pas mal en termes de taille.
Ah, c'est pas énorme non plus. Mais alors, frégate, c'est. Ici, c'est 1,8 km de long, 6 mégatonnes et environ 25 500 hommes d'équipage. Voilà.
À 25 000 quand même.
Oui.
Ah, c'est une petite ville, en fait. Même une
exactement,
ville de taille moyenne.
Exactement. Il y a des générations. Enfin, le vaisseau est capable de d'errer durant des générations. Il y a des membres d'équipage qui sont nés, ont grandi, ont été élevés dans le vaisseau, et il y a toute une société à l'intérieur qui fait fonctionner la machine.
D'accord. D'accord. Mais alors, ce warp dont tu me parlais tout à l'heure, c'est un peu, c'est ce qui sert à faire les voyages hyperspatiaux en quelque sorte.
Oui.
Ouais, c'est quelque chose comme ça.
C'est une dimension qui est très hostile à l'humanité, qui est remplie de démons, et donc on ne voyage pas dans le warp comme ça sans préparation. D'abord, il faut savoir comment naviguer. Donc, pour ça, on a des mutants, donc qui ont des pouvoirs psychiques, qui sont capables, en fait, de se repérer avec la lumière psychique émise par l'Empereur Dieu. Et on a bien sûr des protections spéciales sur le vaisseau pour éviter qu'il soit déchiré par les énergies du warp.
D'accord.
Voilà. Et le warp a cette particularité qu'il défie les lois de la physique. Donc, on peut très bien entrer dans le warp et en sortir 200 ans plus tard, ou bien 1000 ans auparavant.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, donc un voyage et c'est fini, tu ne connais plus personne,
oui,
nulle part.
Il y a des flottes qui ont été perdues dans le warp et qui en sont ressorties, on ne sait quand, on ne sait où.
D'accord. Voilà.
Il y a aussi des tempêtes dans le warp qui empêchent, qui bloquent parfois toute communication avec certains mondes qui sont alors déclarés perdus. Et qui sont susceptibles d'évoluer indépendamment de l'Imperium. Il y a peut-être on peut tout à fait imaginer qu'un millier de mondes a été séparé de l'Imperium durant 2000 ans et on peut se permettre avec ce jeu beaucoup de liberté de ton et de création, parce que le monde est tellement vaste que on peut vraiment imaginer toutes sortes d'évolutions et de situations.
Ah oui, d'accord. Donc de ce point de vue, finalement, c'est du vrai space opéra.
Ouais. À la fin de l'aventure, on peut très bien faire exploser la planète. C'est pas grave, il y en aura toujours une autre. Voilà. Surtout que le groupe de joueurs va avoir à sa disposition un vaisseau qui lui permettra de se barrer. Donc
oui.
Dans une grande explosion cataclysmique, et bien sûr le vaisseau sortira de la planète au dernier moment.
Oui.
On peut peut-être en profiter pour parler de toutes les possibilités de jeu. Comme cet impérium est extrêmement vaste, donc il y a toutes sortes de zones à l'intérieur. Il y a des zones en paix où on peut faire du commerce, il y a des zones perdues qu'on peut redécouvrir, il y a des zones de guerre dans lesquelles on peut jouer avec tout ce qui arrive durant des guerres, des blocus, la pénurie, les sièges, ce genre de choses. Il y a des zones avec des trésors qu'il faut retrouver.
Uh-huh.
On peut très bien s'imaginer qu'on va jouer dans une optique purement commerciale et en faire quelque chose de vraiment intéressant, parce que le risque est là. Peut-être que la planète où vous débarquez a été complètement infiltrée par le chaos, vous n'en savez rien, et voilà, vous allez devoir peut-être que vous allez embarquer un membre de l'espèce tyrannide dans votre soute sans vous en rendre compte, qui va faire des petits et que vous allez avoir un gros problème sur les bras.
Ah oui, on peut se rejouer Alien.
Voilà. on peut faire les corsaires et les pirates. On peut très bien imaginer que soit vous décidez de braver l'Imperium et de devenir pirate, soit peut-être l'autorité impériale locale s'est révoltée contre l'Imperium. Elle contrôle une centaine de mondes et vous devenez un partisan de l'Imperium à l'intérieur. On peut se rejouer les sept cités d'or avec découverte d'une base secrète datant d'il y a 10 000 ans, etc.
D'accord.
L'exploration, voilà. Ce que j'apprécie dans ce jeu, je tiens à le dire, c'est la grande liberté qui est laissée aux joueurs comme aux maîtres de jeu pour décider quel type de jeu ils vont jouer.
Ce monde, il est quand même pas super joyeux.
Non, clairement. Donc c'est un monde où on a vocation à mourir de mort violente, où il y a pas de retraite, par exemple. C'est pas un concept. la retraite à 70 ans, ils aimeraient bien, mais non. De toute façon, on vit pas assez vieux généralement. Les masses populaires sont complètement prolétarisées, sont complètement victimes d'une société qui les exploite, mais sont aussi complètement fanatisées par leur catéchisme et
okay.
leur...
Mais du coup, qu'est-ce qui rend ce jeu attachant au final?
Parce
que dans un univers aussi noir et tout, évidemment, on peut aimer la noirceur et tout, mais on a l'impression que c'est quand même très très bouché quelque part.
Oui et non. Alors, Rogue Trader justement, c'est particulier par rapport à ça. C'est vraiment le libre marchand et son équipage ont vraiment une liberté. Qui est sans parallèle avec n'importe qui d'autre dans l'Imperium, puisque autant dans Dark Heresy et dans le jeu sur l'espèce marine, les personnages vont être astreints à un code moral très précis et vont avoir des supérieurs à qui rendre compte. Autant dans Rogue Trader, les personnages ont envie de se tirer avec les clés, ils le peuvent. Ils ont vraiment une liberté d'action phénoménale et
D'accord. D'accord.
C'est une sensation qui est quand même plus sympathique que d'être aux
d'accord.
ordres.
C'est le jeu le plus optimiste du lot, quoi.
Oui, c'est le jeu le plus optimiste du lot de loin, dans la mesure où en plus on peut partir dans son trip.
Ok. Et c'est qui sort ça déjà?
Alors, c'est donc un jeu qui est donc basé quand même sur un univers anglais, hein, celui de Games Workshop. Mm-hmm. Donc c'est un jeu à licence qui est en fait publié, qui a été développé par par je ne sais qui d'ailleurs. Attends, hop. Parce que initialement c'était Green Ronin Publishing qui avait publié Warhammer, mais là qu'est-ce qu'il en est? Conception, tac tac tac, Ross Watson.
Ouais, mais Green Ronin, ils ont uniquement Warhammer, non?
Oui, peut-être, oui. En fait, je crois que ça a été développé par Fantasy Flight Games.
Ouais.
Et c'est bien sûr publié par la Black Library, qui est la société de Games Workshop qui est spécialisée dans les livres.
Mm-hmm.
Et en France, par la Bibliothèque Interdite. Donc, société très dynamique avec une politique de traduction et une volonté de faire découvrir au public français cet univers qui a permis vraiment à toutes les gammes Warhammer, Dark Heresy, Rock Trader maintenant d'être traduite en français. La traduction est de bonne qualité, vraiment à la lecture, j'ai pas eu à m'en regretter, alors qu'il peut arriver que dans des romans de la Bibliothèque Interdite, il y ait des typos et que parfois il y ait des petits problèmes de traduction. Là c'est très bien traduit, et puis ça donne envie de jouer. De ce point de vue-là, c'est franchement, on a de la chance d'avoir la Bibliothèque Interdite parce que d'autres gammes de jeux de rôle en France n'ont pas eu la chance d'avoir un éditeur qui les a vraiment poussés et qui avait les reins la volonté quelque part de servir l'empereur Dieu en publiant. Oui, ça requiert un petit peu une dose de fanatisme espèce marine.
C'est ce que je vois, oui.
De traduire ça, quoi. Donc, je pense qu'on a tous des exemples de gammes qui ont eu une belle vie en anglais et qui n'ont pas eu droit à quelque chose de bien en français.
Il y a certains jeux qui ont été un petit peu massacrés à la traduction.
Oui, pas seulement la traduction, c'est aussi le fait de derrière assurer et de sortir le supplément et d'être là,
oui,
de faire vivre le jeu, la gamme.
Et voilà. Tout. Et après, il y a le... Oui, il y a certains jeux qui n'ont pas eu cette chance. Mais d'un autre côté, c'est peut-être parce que quand le volume de base ne marche pas du tout, tu ne sors pas de supplément, quoi.
Ça, c'est l'excuse que va sortir. Je pense qu'il y a aussi quand même une volonté un peu évangéliste qui a beaucoup servi Games Workshop, société qui a certainement ses défauts, mais qui a aussi compris très tôt que c'était en créant une communauté avec des références communes, un univers vraiment. Que c'était Games Workshop a compris que c'était en rassemblant vraiment les joueurs autour d'une marque qu'ils pourraient asseoir leur puissance économique et survivre sur le long terme. Ils l'ont très bien fait. L'univers de 40 000 comme l'univers de Warhammer Battle ou Warhammer Fantasy sont des univers qui sont connus, aimés et partagés par des dizaines de milliers de joueurs, même plus. Et c'est bien d'avoir des sociétés comme la Bibliothèque Interdite qui ont permis et qui permettent aux joueurs français de profiter de cela, parce que mine de rien, il y a souvent un petit peu de snobisme parmi les joueurs de jeux de rôle par rapport au fait d'utiliser les jeux en version originale ou sous prétexte que les jeux seraient mal traduits. Mais mine de rien, on est bien content d'avoir le jeu en français. Et puis tout le monde ne parle pas anglais, surtout les plus jeunes. Voilà. Donc bravo la Bibliothèque Interdite. Et je vous conseille tous de au moins jeter un coup d'œil en boutique à Rock Trader. C'est aussi un très beau, très bel ouvrage. Je ne vous ai pas parlé des règles parce que pour moi, ce n'était pas le plus important. Mais pour ceux qui connaissent Warhammer, c'est vraiment le même système de règles.
Ouais, c'est
même base, capacité de tir.
Capacité de combat.
Oui, c'est les mêmes caractéristiques. Il y a des moments où j'ai un petit peu décroché parce que c'était, je pense, peut-être trop la recherche de la bonne idée. Et puis, je ne suis pas sûr que ce soit super ludique au final. C'est quand on cherche à quand on cherche à, à créer des mécaniques de jeu autour, par exemple, de l'influence ou autour de la richesse, et qui semblent mécaniques qui peuvent sembler un peu artificielles, mais ça, il faudrait que je le teste en jeu vraiment pour avoir un verdict, comment dire,
plus sûr,
plus sûr là-dessus. Donc, je suis pas entièrement certain que toutes les innovations en matière de règles sont intéressantes. Uh-huh. La base du jeu reste simple, c'est ce qu'on lui demande. Il y a aussi quelques regrets par rapport à ce qui fait la richesse du jeu, c'est le fait qu'on peut jouer vraiment tout et n'importe quoi en théorie, puisque un libre marchand, il est libre de choisir qui il veut dans son équipage. Il est libre d'aller parler à un prince Eldar s'il en a le courage. Il est libre d'avoir un petit vaisseau aussi, hein. Il y a aucune règle qui stipule qu'il doit avoir un vaisseau de 2 km de long. Et ça enferme un petit peu les joueurs aussi dans un modèle bien particulier de vaisseau, d'équipage et tout. Mais ça, je pense que c'est aussi le rôle des suppléments de fournir d'autres options. Et en même temps, avec un petit peu de travail, rien n'empêche de on peut jouer le Firefly, faut faire des petites adaptations, mais
c'est, ouais, voilà. D'accord. Après, de toute façon, on peut imaginer que ce ne sont pas des vaisseaux qui sont faits pour atterrir. Donc, a priori, dès qu'il y a contact avec la surface, la surface des planètes, tu as besoin d'une plus petite navette.
Finalement, c'est vrai,
tu pourrais faire du Firefly.
Tout à fait,
en faisant comme ça.
Et je pense aussi qu'il y a des tas de scénarios qui attendent d'être joués, des tas d'aventures qui attendent d'être vécues. Dans les entrailles des vaisseaux, parce que c'est des mondes,
oui, c'est un monde en soi, oui.
Je pense qu'il y a des mutineries qui attendent d'être découvertes, voilà.
Ouais, tu peux avoir aussi, je pense, des épisodes à la Babylone 5, tu sais, où différents parties, en quelque sorte, s'entre-déchirent en tractation dans les sombres couloirs.
On pourrait imaginer que la lettre de marque qui donne le pouvoir au libre marchand est coupée en 5 petits morceaux et que...
qui est détenue par le prince marchand, machin chose de la planète truc qu'on a embarqué ainsi que toute sa suite.
Alors je peux quand même parler un tout petit peu du système de création de personnages.
Ah ouais, pourquoi pas.
Parce qu'il est un petit peu marrant. Mm-hmm. Pour moi ça reste plus du domaine du conseil. On peut toujours faire ce qu'on veut pour créer son personnage, mais dans l'idée, ce qui va se passer, c'est on va définir l'historique, le background du personnage, voilà, la voie des origines.
Tadam. Alors, 16. Qu'est-ce que c'est que ça?
On commence par déterminer le monde natal, en fait, du personnage. Mm-hmm. Ça va du monde mortel, la jungle, la carnivore, genre de choses, le monde forge industriel, le monde ruche surpeuplé, les villas de la noblesse. Donc on commence par définir le monde natal, et puis ensuite pour chacun de ces mondes.
D'accord. À chaque étape, on peut choisir quelque chose qui va typer le personnage.
Voilà, par exemple, imaginons que je sois né sur un monde de la noblesse, donc d'accord, un de ces rares mondes plutôt épargnés par la guerre. Uh-huh. Je pourrais devenir soit privilégié, soit puits de science. Si je choisis d'être puits de science, ensuite je pourrais découvrir comment je me suis lancé dans une carrière spatiale, soit à cause de mon devoir, lié par le devoir, soit dévot par dévotion religieuse, d'accord, soit élu, mm-hmm, de la destinée. Et ainsi de suite. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 étapes pour la création d'un personnage.
D'accord.
Qui permettent d'aboutir à 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, carrières. Carrières de base proposées dans le bouquin.
Les fameuses carrières de Warhammer.
Voilà. Donc je peux faire un petit tour de table des carrières typiques. Uh-huh. Ça donnera peut-être une idée du type de personnage qu'on est susceptible de jouer. Bon, d'abord, il y a le libre marchand. Donc lui, c'est le chef. C'est une sorte de noble qui va avoir droit aux meilleures armes, aux meilleures armures, qui en théorie est le chef du groupe. Et bon, ça c'est encore aux joueurs d'aviser la meilleure manière de gérer cette situation. Il y a le navigateur qui est donc ce mutant qui a un troisième œil qui s'ouvre au milieu du front et qui lui permet de regarder dans le warp.
Ah, il a un troisième œil au milieu du front.
Ouais, c'est un vrai mutant. Et donc il développe des pouvoirs psychiques et plus il est puissant psychiquement, oui, plus les mutations sont prononcées. Il y a le sénéchal qui est un petit peu le, bah, comme son nom l'indique, c'est un petit peu le chef de la, le,
chef de la
maisonnée.
Police, non, un truc comme ça. Un chef de la police, non,
non. C'est pas un prévôt, c'est le chef de la maisonnée, c'est le responsable de la logistique. c'est l'homme de confiance, c'est lui qui gère le bateau, voilà. Il y a le missionnaire, puisque en fait un des rôles des rock traders, des libres marchands, c'est aussi
de répandre la bonne parole.
La bonne parole, exactement. Donc ils ont des fanatiques religieux avec eux. Enfin des gens qui sont encore plus fanatiques religieux qu'eux. Mais enfin les libres marchands et leur équipage ont cette possibilité rare donc d'échapper à ce carcan religieux quand même. Donc ils peuvent se la jouer un petit peu voilà, pas athée mais un peu moins dévot. Donc il y a aussi l'explorateur qui est un spécialiste comme son nom l'indique de l'exploration et de la découverte de nouveaux mondes. Il y a le maître du vide, l'archimutant.
Maître du vide.
Oui, le maître du vide. Donc il y a le maître du vide.
Oui.
Le maître du vide, c'est le pilote en fait. Ça va être celui qui va conduire ce petit vaisseau dont tu parlais, qui permettra d'aller sur la planète. C'est lui qui va conduire le véhicule terrestre.
Lui, il a des compétences techniques. C'est
le Técos, oui. Voilà. Il y a l'archimilitant qui lui va être un guerrier. Donc peut-être le garde du corps du libre marchand par exemple, ou le seigneur de guerre qui va mener au combat les troupes du libre marchand.
D'accord. Ah, un vaisseau spatial de ce type a des soldats?
Pas forcément, non, parce qu'en fait il peut avoir des soldats qui peuvent avoir un commandant qui échappe au contrôle du libre marchand. Donc, qui serait juste le transporteur de ses troupes.
D'accord.
Peut-être dans le cadre d'un contrat bien spécifique. Mmh. Il peut aussi y avoir des troupes complètement inféodées au libre marchand. Enfin, toutes les options sont possibles quelque part.
D'accord.
L'archimilitant, on suppose que ça va être un membre de l'équipage du libre marchand qui travaille pour le compte de la famille du libre marchand et qui peut avoir sous ses ordres donc des soldats mercenaires, hein, enfin des employés voilà qui obéissent.
D'accord. Voilà.
Et il y a l'astropathe qui est comment dire, c'est un petit peu le backbone, c'est lui qui permet la communication entre les astres. Alors que le navigateur lui permet de naviguer dans le warp,
oui,
l'astropathe lui va envoyer des messages psychiques pour communiquer plus que la lumière.
Ah d'accord, c'est le radio en fait.
Exactement. Voilà. Et donc c'est lui aussi un psycheur, un quelqu'un qui est doté de pouvoirs psychiques.
Et sur la nuque, il a un bouton AM et un bouton FM. on peut switcher entre les deux selon la distance de communication.
Peut-être pas, mais il a cet avantage d'avoir certes un métier pas très glamour, hein, radio effectivement, oui, mais en petit bonus, il a des pouvoirs psychiques.
Ah, effectivement, ce n'est pas à négliger.
C'est un des magiciens du groupe.
D'accord. Ah, d'accord. Ok.
Avec le navigateur.
Ah, les navigateurs ont aussi des pouvoirs psychiques.
Oui,
Ah, mais oui, puisque ce sont eux qui naviguent dans le warp, effectivement. Voilà. Mais ça aurait pu être, ils auraient pu avoir une formation orientée warp, si tu veux.
En fait, pour la plupart des gens, regarder dans le warp, c'est succomber à la folie.
Oui.
Eux sont capables de regarder dans le warp et donc de s'y diriger sans devenir fou, mais l'esprit humain n'est pas fait pour pour regarder ces folles énergies psychiques.
Alors j'avais un petit peu lu le bouquin. Il me semble avoir vu que justement ceux qui regardent dans le warp peuvent être sujets à des mutations amusantes ou quelque chose comme ça. Il me semble avoir vu ça, ouais, que les échecs critiques provoquaient.
Les mutations, c'est spécial dans l'Empire, dans le sens où elles sont souvent liées donc au warp et aux mutations, à cette mutation énorme de l'humanité qui l'a rendue race éveillée, race dotée de pouvoirs psychiques, mais race trop jeune qui ne maîtrise pas ses pouvoirs psychiques parfaitement et qui lorsque l'individu accède à cet univers psychique c'est pas très français ce que je dis mais en gros la plupart des individus qui dont les pouvoirs psychiques s'éveillent deviennent fous.
D'accord.
Ils ne supportent pas ça. Il y a des mutations qui peuvent apparaître, qui sont parfois indépendantes. Hein. On n'est pas obligé d'être psychique ou pas. Ça peut être la pollution, ça peut être les énergies du warp, le chaos, ce genre de choses. Généralement, les mutants sont abattus à vue. c'est la politique impériale.
C'est sympa, hein. Dis donc.
Oui, c'est assez peu tolérant. Les psycheurs, ceux dont les pouvoirs psychiques s'éveillent, sont par principe capturés. Tester si besoin et généralement confier aux vaisseaux noirs. Ce sont des vaisseaux où ils sont isolés et où leurs pouvoirs psychiques sont neutralisés. Ces vaisseaux en fait font voyagent dans tout l'Imperium avec comme destination ultime Terra, le berceau d'humanité où se tient l'empereur sur son trône immobile et complètement absorbé par ses tâches voilà ces psycheurs qui viennent de découvrir leur pouvoir vont servir de nourriture psychique à l'empereur.
D'accord, sympa. Dis donc il fait bon vivre par là-bas. Donc, avec toutes les joyeusetés que tu viens de nous décrire, donc tu nous recommandes donc vivement cet ouvrage, c'est bien ce que j'ai compris.
Oui, alors je n'y ai pas encore joué, donc on va dire que je réserve un petit peu mon jugement, mais à la lecture c'est un vrai plaisir. Mm-hmm. L'univers il est connu, on peut trouver vraiment plein de sources d'inspiration sur cet univers en ligne. C'est pas compliqué, il y en a en français, il y en a en anglais. Donc il y a des cadres qui existent qui sont très bien très explicites. On peut aussi l'univers donne cette liberté donc avec cette il est tellement énorme, on peut imaginer n'importe quoi, on a le droit d'en faire ce qu'on veut de toute façon. Mm-hmm. Il y a aussi des romans qui permettent de se plonger dans l'univers donc romans qui sont traduits en français, hein, les romans Warhammer 40 000 chez la Bibliothèque Interdite, et c'est vraiment un univers cohérent qui existe, qui est une force qui est assez prenant. Donc ça d'une part. Ensuite au niveau de la simulation, ça reste très très simple. On jette des dés à 100 faces et il faut faire moins que la compétence pour réussir son coup, quoi. Donc ça c'est la base, hein. Il y a des subtilités, mais
d'accord.
Je pense que c'est un jeu qui peut convenir à des personnes qui seraient en recherche d'un jeu qui mêle un peu science-fiction et magie.
Oui.
Puisque donc l'univers est finalement un univers fantastique plus que de science-fiction traditionnelle.
Ok, très bien. Cyril, je te propose qu'on passe aux news tout de suite parce qu'en fait nous sommes très en retard et nous n'aurons pas le temps de traiter Yggdrasil, donc ce sera pour le prochain podcast.
Et donc voici maintenant les news.
Donc, dans les news, qu'est-ce que j'ai vu récemment qui m'a amusé ? C'est la fermeture de la forge, donc dont nous avons évoqué tout.
le chat de Cobal vient de l'agresser. Lui aussi a été traumatisé par la fermeture du forum de Ron Edwards.
Donc, le forum La Forge qui a servi de berceau à nombre de théories rôlistes et de réflexions sur le fond, sur la façon de jouer. Donc un truc vraiment vraiment important, je trouve. Ron Edwards, l'un de ses cofondateurs, a décidé récemment que le forum allait fermer. Enfin, pas exactement fermer, Mais en fait, il emprunte du vocabulaire pris dans Ars Magica, c'est-à-dire que comme dans les saisons d'une campagne de Ars Magica, le forum va rentrer en mode hiver.
D'accord.
C'est là où les mages rentrent chez eux et font leurs recherches, si je me souviens bien. Et donc, ce forum va fermer car donc Ron Edwards estime que celui-ci a atteint son but. C'est-à-dire qu'ils avaient des interrogations sur la façon de pratiquer notre loisir favori. Et ces interrogations ont mené à différents articles, dont beaucoup sont disponibles sur le Place to Go, People to Be, le formidable site de réflexion sur le jeu de rôle.
D'accord.
Ok, en français. Donc on a une traduction de tous ces textes-là. Oui, donc Ron Edwards a estimé que le forum avait rempli son but, enfin avait rempli sa fonction. Je trouve que c'est un petit peu dommage que finalement ça s'arrête comme ça.
Oui, mais bon, si j'ai bien compris, il a quand même atteint son objectif. Il a fondé les
sept piliers de la sagesse rôliste.
Voilà, exactement. Il a trouvé la table des éléments périodiques politiques. Alors, il reste encore à inventer la fusion nucléaire, peut-être, mais en tout cas, les bases sont posées. Des théoriciens ont finalement donné un ensemble d'outils pour nous permettre de commenter et de comprendre les jeux de rôle un petit peu mieux. C'est très très prétentieux tout ça.
Il n'empêche, une page se tourne. Donc ce forum aura au moins le mérite de poser les premières pierres d'une réflexion sur ce que c'est que l'essence du jeu de rôle et comment on peut mettre ça en œuvre de manière éclairée. Et c'est un peu moins prétentieux que de dire qu'il s'agit du dixième art. Donc voilà pour ce sujet. Ah sinon, il y a aussi autre chose dont je voulais te parler. Donc j'ai lu récemment un article à la fois très amusant et très assassin sur la FFJDR, donc la Fédération Française de Jeux de Rôle. Donc c'est sur le Mystery Machine Zine. Donc apparemment c'est le fanzine, un fanzine lié à une maison d'édition appelé Mystery Machine, mais je n'ai pas vu de jeu fait par eux jusqu'à présent. Donc en fait, dans cet article, il critique une vidéo dans laquelle on voit une interview de Thomas Laboret,
d'accord,
qui est le président de la FFJDR. Mais il s'agit avant tout d'une critique plus générale de la Fédération Française de Jeux de Rôle en tant que telle. D'une part, il dit que la fédération s'octroie son titre de fédération, que celle-ci ne fédère rien du tout, que vu le peu de personnes, vu le faible nombre de membres et le peu d'impact que celle-ci a sur l'ensemble des pratiquants, comment celle-ci peut-elle s'approprier ainsi le titre de fédération ?
Est-ce qu'on connaît le nombre d'adhérents de la FFJDR ?
Alors, il me semble qu'il en parle dans son article et ça ne doit pas être énorme, je ne sais plus, une cinquantaine, même pas, je crois.
D'accord.
Quelque chose comme ça. Et d'autre part, il dit qu'il n'aime pas la structure pyramidale de la FFJDR. Et ça revient à plusieurs reprises. Alors pyramidale, le terme me semble un petit peu fort en fait pour la FED, étant donné justement qu'elle n'a pas beaucoup de membres, qu'ils font presque tous partie du conseil d'administration. C'est pas une pyramide, en fait, c'est plutôt un mur de briques. Puisque... non, ce serait le... ce serait leur donner une puissance bien considérable que de les que de leur donner une structure pyramidale.
Donc, mais un des reproches donc, c'est de dire que la FFJDR ne représente rien parce que nous rôlistes, ne sommes pas adhérents et donc cette association qui veut parler en notre nom quelque part usurperait notre parole, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Il y a une D'accord. sorte de capture de la parole.
Je me souviens, moi, d'une époque où il y avait deux associations. Il y avait la FFJDR et une association des rôlistes.
Il y avait la JDR, c'est ça?
Peut-être. Association des joueurs de jeux de rôle.
Ouais.
Et donc là, on a une seule association, il me semble, qui survit et qui essaye de faire quelque
attends,
chose.
D'ailleurs, c'est pas la JDR qui a donné naissance à la FFJDR.
Oh là là, tu me poses une colle.
Il faudrait que je demande à un dinosaure du jeu qui connaît ce genre de détails.
Est-ce qu'il y a des gens en dehors, des membres du bureau qui connaissent encore les détails en question? En fait, ok, alors moi je suis complètement extérieur à la situation, n'étant ni lecteur de ce fanzine, ni membre de la FFJDR, bien que je connaisse comme toi c'est son bureau.
Oui, voilà, oui.
A priori, je ne connais pas d'autres associations qui essayent de faire ce que la FFJDR essaye de faire, plus ou moins bien, certainement. Hein, c'est une très petite équipe.
D'ailleurs, il a une formule qui m'a fait plutôt rire. Donc, il parle de la position de la FFJDR dans ces forums relatifs au piratage des PDF des jeux de rôle. Donc, franchement, je suis pas allé voir de quoi il retournait, mais à mon avis, la FFJDR dit quelque chose comme c'est mal de pirater. Mais bon, en même temps, si elle appelait au piratage massif, ça m'étonnerait quand même rudement. Ce que Pascal, l'auteur de l'article, dit, c'est que par cette position, il dit que le Thomas Laboré aurait pour ambition de devenir le Pascal Nègre des éditeurs,
le défenseur des droits. Il voudrait mettre des DRM dans les jeux de rôle.
Cela dit, c'est vrai que l'image est amusante, mais je trouve qu'il va un poil loin dans dans sa critique, notamment sur la structure elle-même de la FFJDR. Je pense qu'il s'en fait une image qui est plutôt fausse. Je suppose que tu as fait de l'associatif aussi.
Oui, le problème des associations, en fait, c'est pas leur structure, c'est la motivation pour les faire vivre sur le long terme. Donc
les projets qui sont faits par la Fédé. Là, j'ai regardé un petit peu du coup tout ce qu'ils faisaient. Il y a des choses que je trouve vraiment super intéressantes. Comme ils font un truc où ils mettent du jeu de rôle dans des DVD, tu sais, comme ils avaient fait pour les chroniques de la guerre de Lodos. Je sais pas si tu avais vu ça. Et ils font aussi ils ont un projet qui est vachement sympa où il y a un mec qui va maîtriser des parties de jeu de rôle à des jeunes aveugles. Et en fait, il a créé tout un système avec une feuille de perso en relief. En fait, il détourne un outil qui sert normalement à faire des matchs, je crois, donc pour compter des trucs. Et il sert de ça et il pose par-dessus, si tu veux, une feuille de perso.
Un boulier, peut-être Non.
Mais c'est pas vraiment un boulier. Je sais pas vraiment comment ça marche. Vu que c'est un truc qui fonctionne au toucher. Et bref, donc ils ont des projets que je trouve vraiment super intéressants, mais qui finalement font appel à des compétences qui sont super spécifiques. Et je pense pas que pour faire Bah, par exemple, pour faire le truc du DVD, il faut les contacts, il faut après il faut savoir, enfin il faut filmer, il faut, je sais pas, il y a plein de trucs, de compétences techniques qu'il faut, qui font qu'il y a que le gars qui crée l'opportunité de faire ce projet, qui peut vraiment y participer en quelque sorte.
Oui, d'accord.
Après, où le et donc je pense que il n'y a pas forcément besoin d'être des milliards de membres non plus pour mener à bien ce genre de projet.
Ceci dit, j'imagine que si quelqu'un est intéressé pour faire avancer la cause du jeu de rôle, la pratique de notre loisir au niveau national, voire francophone. J'imagine que la FFJDR l'accueillerait à bras ouverts.
Alors,
je suppose.
Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, après, défendre la cause, moi, j'en suis pas super convaincu. En fait, le côté prosélyte, c'est vrai que c'est pas le truc qui me paraît le plus important. Ce qui me paraît le plus important, en fait, c'est si la FED a été créée, faut quand même pas l'oublier. C'est c'est à la profanation du cimetière de Carpentras qu'il y avait eu les rumeurs disant c'est la faute des rôlistes.
Ouais, mon club de jeu de rôle avait perdu son local suite à cette affaire.
Ouais, suite à ça.
Enfin. Et c'était donc dans ce contexte-là.
La création de la FFJDR, c'est un petit peu suite à ça. C'est histoire d'avoir un espèce de, ce qui est dit un petit peu, c'est-à-dire c'est une vitrine institutionnelle du jeu de rôle. Donc y participer de ce point de vue-là, c'est bien aussi, mais c'est pareil. Tout le monde n'est pas avocat.
Oui.
Parce que si tu veux,
le jeu de rôle a un visage maintenant en France, c'est celui de la FFJDR.
Oui.
C'est pas pour ça que la FFJDR est le gouvernement du jeu de rôle. C'est pas du tout ça, mais.
Et en plus, c'est vrai qu'elle est complètement, qu'elle est pas du tout représentative de qui que ce soit. Mais pour moi, ça reste quand même une bonne idée, quoi.
Moi, je me souviens d'une conversation où on m'a expliqué que la FFJDR, en tout cas la nouvelle équipe de la FFJDR, était repartie de rien, puisqu'il n'y avait pas de relation effectivement avec les entités régionales, les clubs, qu'il y avait beaucoup de liens, beaucoup de travail à faire sur le lien, beaucoup de travail à faire pour que les rôlistes se parlent.
Oui.
Et voilà, donc c'est pas forcément quelque chose non plus qui doit venir du sommet et qui doit irriguer partout. C'est aussi d'une manière générale à nous tous qui sommes dans des clubs qui allons dans des conventions de partager et puis de.
Et alors maintenant, toi par exemple, es-tu dans un club?
Non.
Et moi non plus.
Non, mais pourquoi je suis pas dans un club? Parce que quand on est plus jeune, un club, c'est trouver le moyen de se trouver un premier groupe de partenaires de jeu. C'est le moyen d'avoir un local.
Fumer en cachette.
Fumer en cachette. Avoir un local. Maintenant, avec l'âge, le fait de disposer d'un local, c'est plus facile. Et nous sommes des vieux croutons qui fréquentons toujours les mêmes personnes depuis 10 ans.
Bon, eh bien, écoute, je pense que nous sommes arrivés... à la fin, à la fois de ce sujet et de ce podcast, car effectivement, il est très tard et tu dois maintenant partir.
Oui, je suis attendu en mission sur une planète pour repousser les tyrannides.
Bon, eh bien, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons vous revoir au prochain podcast qui aura lieu d'ici combien de temps ? À peu près 2 mois, quelque chose comme ça ?
Oui,
disons courant février.
5 semaines plus 2D6.
Voilà, dans 5 semaines plus 2D6 semaines. Allez, à bientôt.
À bientôt.